Europe 1.
Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Soyez les bienvenus au cœur de l'histoire. Le 25 avril 1984, disparaissait à 92 ans celle qui fut la dernière femme de chambre de Marcel Proust, Céleste Albaret. Durant 10 ans, elle avait accompagné jusqu'à sa mort en 1922 le quotidien du grand écrivain français. Fidèle à celui qu'elle a pu parfois considérer comme son enfant, elle a refusé durant des décennies d'évoquer ses souvenirs avec lui. Puis, parvenue à l'âge de 80 ans, excédée par les ragots qui depuis sa mort entachaient l'auteur de La Recherche du Temps Perdu, elle s'est résolue à écrire ses mémoires. C'est ainsi que paraît, en 1973, son ouvrage intitulé « Monsieur Proust ». Dans ce livre, elle entreprend de montrer le Marcel Proust qu'elle a connu et de faire taire certains commérages. Comment apparaît dans son témoignage celui qui est devenu au fil des ans l'exemple type de l'écrivain dévoré par son œuvre ? Qui était-il vraiment ? C'est ce que je vous propose de découvrir dans cet épisode en deux parties. Première partie, journal d'un reclus. À demi allongé sur son lit, Marcel Proust, la tête penchée sur sa main, regarde Céleste, sa femme de chambre, d'un air amusé. Dans cette pose, il est tel qu'on le voit sur son portrait photographique le plus connu. Visage d'une grande pâleur, moustache généreuse, regard pensif, sinon langoureux. En ce mois de septembre 1914, première année de la guerre engagée contre l'Allemagne, l'écrivain a 43 ans. Son chauffeur, Odilon Albaret, vient de se marier avec une certaine Céleste. Proust lui a demandé si elle aussi accepterait d'entrer à son service comme femme de chambre. Monsieur Proust, comme l'appellent ses domestiques, est connu pour sa gentillesse, qui n'a d'égal que son exigence. Être son chauffeur demande une disponibilité de chaque instant. Mais en retour, quelle prévenance! Le jour de son mariage, Odilon, juste avant d'entrer dans l'église avec sa fiancée, reçoit de lui un télégramme de Paris.
« Toutes mes félicitations. Je ne vous écris pas plus longuement parce que j'ai pris la grippe et suis fatigué, mais je fais des vœux de tout mon cœur pour votre bonheur et celui des vôtres. »
Lorsqu'elle entre à son service fin 1913, Céleste Albaret ne connaît rien de M. Proust, son nouvel employeur. Par son mari, elle sait qu'il est d'une famille de la haute noblesse de la région de Chartres. La première fois qu'elle le découvre, elle tombe aussitôt sous le charme. Je vois ce grand seigneur qui entre. Il faisait très jeune, mince, mais pas maigre, avec une très jolie peau et des dents extrêmement blanches, et aussi cette petite mèche sur le front que je devais toujours lui voir et qui se faisait toute seule. Et puis, cette élégance magnifique et cette façon curieuse, cette espèce de retenue que j'ai remarquée ensuite chez beaucoup d'asthmatiques, comme pour économiser leur force et leur souffle. Proust est de taille moyenne, dans les 1m72 selon Céleste, qui de prime abord le jauge d'après sa taille à elle. À cette époque, Proust n'a encore rien publié de La Recherche du Temps Perdu, son chef-d'œuvre. Quelques romans sont parus de lui, Les plaisirs et les jours, et Jean sans œil. S'ils ne sont pas tout à fait passés inaperçus, leur auteur a tout au mieux confirmé son image de dandy mondain, préoccupé d'une littérature jugée simplement décorative. Il est sans doute un peu connu de la haute bourgeoisie dont il est issu lui-même. Mais pour le grand public, il n'existe pas. Les éditeurs n'ont même pas jugé utile de jeter un œil sur le manuscrit qu'il leur a envoyé, un manuscrit intitulé « Du côté de chez Swann ». Il a donc dû le faire publier à compte d'auteur. Aussi, l'impression ressentie par sa nouvelle domestique prend-elle une valeur singulière. Elle a reconnu tout de suite, derrière la posture du bourgeois, la noblesse du cœur et de l'âme et ce qu'elle appelle le génie. Céleste Albaret est une jeune femme simple, Née dans le fin fond de la Lozère, elle apprend vite à se débarrasser de ses manières de provinciale. Elle sait lire, elle sait écrire. Si son instruction s'est arrêtée à ses fondamentaux, elle est dotée d'une mémoire exceptionnelle qui va lui être d'une grande utilité. Marcel Proust, qui lui attribue la place occupée auparavant par deux personnes à présent renvoyées, se rend d'abord compte qu'elle ne sait rien faire.
Madame, je ne vous apprendrai rien si je vous dis que vous ne connaissez rien et que vous ne savez rien faire, je le sais. Vous ne savez même pas parler à la troisième personne. Mais rassurez-vous aussi, je ne vous demanderai rien, je me suffirai et je veillerai moi-même à mes affaires. Vous me ferez seulement mon essence de café, qui est le plus important.
Ces mots paraissent un peu cruels, mais Céleste ne cesse d'insister dans ses mémoires sur l'extrême douceur qui les accompagne tant par le ton de la voix que par le regard. Il s'y ajoute ce petit sourire, moitié tendre, moitié ironique, dont Proust ne se défait jamais quand on lui parle. C'est que derrière une sympathie affichée dès leur première rencontre, Marcel Proust va aussi deviner en Céleste une extraordinaire intelligence de la vie. Lui qui n'a jamais fréquenté que des gens apprêtés pour les salons, se trouve face à une personne sans phare, sans masque, sans détour. Lorsque la guerre commence, Céleste a appris l'essentiel de son métier de domestique. Elle a d'abord passé l'année à porter des exemplaires dédicacés du roman « Du côté de chez Swann » aux différentes connaissances de Proust. Les difficultés ont commencé quand il s'est agi de préparer le café. Ce simple geste est soumis à un rituel sévère, d'autant qu'il constitue la principale nourriture de Marcel Proust. Proust exige tout d'abord que ce café soit acheté dans la maison Corcelet, rue de Lévis, dans le 17e arrondissement de Paris. C'est l'endroit où on le torréfie, c'est une assurance de fraîcheur. Les filtres doivent être aussi de marque Corcelet. Qu'ils viennent à manquer, ce sera une catastrophe. Il n'est jusqu'au plateau d'argent assorti, qui lui aussi doit être de la maison Corcelet. On bourrait le filtre de café moulu très fin, très serré. Et pour obtenir l'essence que voulait Monsieur Proust, l'eau devait passer lentement, longtemps, goutte à goutte, pendant qu'on maintenait le tout au bain-marie naturellement. Et il fallait la mesurer pour que cela donne deux tasses, juste le contenu de la petite cafetière en argent, de façon qu'il y en ait un peu en réserve. C'est en regardant opérer les précédents domestiques que Céleste, consciencieusement, a répété les gestes presque sacrés qui permettent de satisfaire l'écrivain. Durant les 10 ans où elle sera à son service, elle n'oubliera jamais les rares fois où, reposant sur le plateau la tasse à laquelle il vient de porter les lèvres, l'écrivain, d'un air de dégoût, s'est exclamé
« Qu'avez-vous fait à ce café? Il est infect !»
Ce seul souvenir l'a fait trembler. À Paris, la guerre se fait sentir de plus en plus à mesure que passent les mois. Mais le danger que représentent d'éventuels bombardements n'est pour rien dans l'obstination de Marcel Proust à ne quasiment jamais quitter sa chambre. Depuis qu'il a décidé de se livrer tout entier à son œuvre, il vit en reclus. L'appartement qu'il occupe boulevard Haussmann a pris au fil des jours l'allure d'une forteresse. D'autant que l'écrivain souffre, depuis toujours, de violentes crises d'asthme qui exigent la tenue de règles d'hygiène drastiques. Bien sûr, Proust ne supporte pas la poussière, mais toute odeur lui est insupportable, notamment celle des parfums. La fragilité de ses nerfs est telle qu'il a fait calfeutrer sa chambre pour n'entendre aucun bruit. Les murs sont recouverts de liège, les volets sont fermés sur des doubles fenêtres et les épais rideaux tirés, si bien qu'on n'entend même pas le tramway passer dans la rue. Cette phobie du bruit ne le quitte pas quand chaque été il se rend en vacances à Cabourg. L'étage supérieur de la chambre d'hôtel qu'il occupe est aussi loué à son nom pour qu'il soit certain de n'entendre personne marcher. L'emploi du temps de Proust est invariable. Il écrit la nuit, se couche au lever du soleil. Réveillé sur les 4 heures de l'après-midi, il fait demander son café par le biais d'une sonnette reliée à la cuisine. Sur le plateau d'argent, il faut aussi poser un croissant et une bouteille d'Évian ouverte. Céleste, durant 10 ans, observe que jamais Proust ne toucha à cette bouteille. Et comme il est hors de question de la resservir le lendemain, elle doit, chaque jour, la jeter. La première fois qu'elle a assisté à une crise d'asthme, c'était au retour de Cabourg. C'est d'ailleurs la dernière fois que M. Proust passait ses vacances là-bas. L'hôtel était réquisitionné depuis septembre 1914 pour accueillir des blessés de guerre. De retour dans l'appartement du boulevard Haussmann, on s'aperçoit que le personnel chargé de nettoyer chaque chambre est en train de passer l'aspirateur. Catastrophe ! Marcel Proust fait immédiatement congédier tout le monde. Puis il se jette sur son lit et demande à Céleste de procéder aux fumigations qui seules peuvent calmer ses accès d'étouffement. Je l'ai laissé. Je le revois au moment où je sortais. Il transpirait et continuait à suffoquer, plié en deux dans son lit sur la fumigation. J'étais terrifiée. J'ai attendu à la cuisine, sûre de ne pas le revoir vivant. Dans la cuisine, Céleste attend. Elle se souvient de ce premier jour où elle est entrée dans la chambre à coucher de Proust. Le nuage causé par les fumigations était tel qu'elle ne voyait de l'écrivain que ses deux yeux qui la scrutaient comme à travers le brouillard. Il lui a alors expliqué comment allumer la poudre censée le soulager. « Il ne faut surtout pas craquer d'allumettes dans la chambre. L'odeur de soufre le ferait mourir. » Il faut allumer un morceau de papier dans la cuisine, puis l'apporter et le poser sur la poudre. Ce jour-là, elle prend la mesure de cet univers singulier dans lequel elle va passer 10 ans. Logée dans une chambre isolée donnant sur la rue, elle peut jouir de la lumière du jour. Elle garde un lien avec le monde extérieur. Parfois, elle a un pincement au cœur en pensant au pré qui s'étendait devant la maison de son enfance en Lozère. Mais là, il n'est plus question ni de campagne, ni même de voir la lumière du jour. Lorsqu'elle est à la cuisine, elle est encore dans une espèce de sas où elle peut gagner l'extérieur. Mais la plupart du temps, elle attend là durant des heures, assise, les yeux perdus dans le vide. Elle ne s'ennuie pas, elle ne pense à rien. Elle attend le coup de sonnette qui va lui donner le signal pour apporter le café. Et la sonnette retentit enfin. La crise d'asthme a dû s'apaiser. Elle sort de la cuisine, entre dans le long couloir à peine éclairé. Le parquet sur le sol n'est jamais ciré à cause de l'odeur. Elle marche lentement pour éviter tout bruit de pas. Entrant dans une grande pièce remplie de mobilier en désordre, elle doit prendre un chemin particulier. Elle a appris, avec le temps, à se repérer dans ce labyrinthe. Lorsqu'elle parvient à la 5e porte, celle de Proust, elle frappe et entre. La fumée remplit tout. Proust, allongé sur le dos, la tête légèrement rehaussée, la regarde pensivement. Par terre, des dizaines de mouchoirs. Céleste a l'habitude d'en laisser une pile à côté du lit de l'écrivain, et Proust, lors de ses crises d'éternuement, ne se sert qu'une fois de chaque mouchoir. Une fois utilisé, il le jette au sol. Il s'est emporté une semaine avant parce que certains mouchoirs étaient d'un tissu trop épais. Il a pourtant ordonné à Céleste de ne les acheter qu'au bon marché.
« Céleste, je vous ai dit que je ne pouvais pas utiliser ces mouchoirs. » Je vous prie de bien vouloir comprendre que ce n'est ni une idée ni un caprice. Ils ne sont pas assez fins. Ils me causent une espèce de chatouillement aux narines qui me donne des éternuements. Et c'est très mauvais pour mon asthme. Donc ne me les donnez plus, s'il vous plaît. »
Dans cette chambre, Céleste a le sentiment de se trouver dans un gigantesque bouchon. Ces murs immenses, cette pénombre, cette fumée. Elle se souvient d'une visite faite alors qu'elle était enfant dans le boyau d'une carrière. Elle éprouve exactement la même sensation. Proust a repris sa pose favorite, soutenant sa tête de sa main. Le voyant ainsi, Céleste sait qu'elle va devoir lui parler et l'écouter pendant des heures. Depuis presque 2 ans qu'elle est à son service, elle a appris à se taire. S'il faut parler, c'est que Proust l'a invitée à le faire. En dehors de ces moments qui, d'ailleurs, peuvent se prolonger pendant les trois quarts de la nuit, Céleste doit rester à sa place. Elle a appris comment se présenter au téléphone. Elle sait comment appeler les ducs, duchesses, comtes et comtesses qu'elle doit contacter quand Proust le demande. Elle ne doit jamais outrepasser sa fonction quand elle est en leur présence. Une simple exclamation déplacée et c'est une sévère remontrance. Un jour, ayant fait tomber un objet, elle échappe un malencontreux. Zut ! Proust la reprend durement.
Céleste, faut vous oublier.
Malgré la rudesse apparente de Proust, quels liens vont se tisser entre l'écrivain et sa femme de chambre ? C'est ce que vous découvrirez dans la seconde partie de cet épisode.